Et Dieu vit que cela était bon. Pour mettre en résonance le texte biblique de la création du monde avec le discours scientifique sur l'univers. Une émission proposée par Ivar Drouel.
Dans le texte biblique des origines, on voit l'univers se construire étape par étape. On voit un monde qui se crée par la parole. Dieu dit et les structures de l'univers apparaissent. L'auteur du récit biblique est comme un observateur. Il regarde Dieu agir, il parle de loin. C'est un narrateur omniscient, capable de raconter ce dont aucun homme n'a été le témoin, et il rapporte les paroles divines. On peut noter que cette construction de l'univers par la parole divine chasse toutes les autres divinités et superstitions qui devaient hanter les mondes et les esprits des peuples de Babylone où devait vivre l'auteur du texte. Il n'y a plus de dieu de l'eau, plus de divinité des sources, des montagnes, des fleuves, pas de dieu du vent, du soleil, pas de déesse de la lune et des étoiles. Seule la parole de Dieu existe et tisse le monde. Et la parole donne son autonomie à ce qui est créé. Les mers, les étoiles existent par elles-mêmes. Ses forces et tout ce qui est créé, chaque élément a sa liberté. Ce texte de la Genèse pose qu'il y a un seul principe créateur, une parole, le Verbe, unique et absolu, qui donne sens et met en mouvement la création entière et libère les énergies. Pour ce peuple exilé à Babylone, au milieu d'une foule de divinités probablement inquiétantes, ce sage rabbin qui écrit ce texte redonne la confiance au monde et espoir. C'est un texte d'espérance. Et Dieu vit que cela était bon. Écoutons ce qui se passe en ce troisième jour de la création. Dieu dit que s'amasse en un seul lieu les eaux d'en dessous du ciel et qu'apparaisse l'élément sec. Et il en fut ainsi. Les eaux qui sont sous le ciel s'amassèrent en leur lieu de rassemblement et l'élément sec apparut. Dieu appela la terre l'élément sec et mer l'amas des eaux. Et Dieu vit que c'était bien. Dieu dit que la terre verdoie d'herbages, de plantes qui disséminent leurs semences, d'arbres fruitiers qui portent fruits selon leur espèce, qui contiennent leurs semences de reproduction sur la terre. Et il en fut ainsi. La terre produisit herbages, plantes disséminant leurs semences selon leur espèce, arbres portant fruits contenant leurs semences de reproduction selon leur espèce. Et Dieu vit que c'était bien. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. La terre ferme apparaît, et les mers aussi. Nous sommes arrivés dans notre monde, notre terre qui nous porte, nous entoure, nous nourrit, et qui nous émerveille. Après la lumière du premier jour, après l'énergie, la puissance des eaux subtiles, fluidité aux mille visages, le troisième jour donne corps à ce monde que nous habitons. Et le vivant apparaît. La grande aventure du vivant commence. L'auteur a observé avec précision les plantes et les arbres avec attention et logique. C'est une invitation puissante à regarder, à notre tour, cette riche diversité qui se déploie. Ne cherchons pas à y voir l'amorce d'une théorie de l'évolution comme Darwin la formulera en 1859. La théorie de l'évolution suggère que toutes les espèces animales, comme végétales ou bactériennes, sont en perpétuelle transformation. On en reparlera plus tard. Reconnaissons juste dans le texte de la Genèse une évocation puissante du monde végétal qui conquiert les sols. Le monde végétal, première manifestation de la vie sur Terre. Le texte insiste sur l'autonomie du monde végétal qui sait se reproduire et se multiplier. Il produit semences et graines et les fruits. Il y a dans ce texte la promesse de la cueillette, le don du fruit. Comment le peintre Escher représente-t-il cela ? En 1926, dans les gravures sur bois qu'il a réalisées en s'inspirant du premier chapitre de la Genèse. Moritz Cornelis Escher, artiste néerlandais, mort en 1972, est plus connu pour son travail en relation avec les mathématiques, les perspectives par exemple. Son travail sur les jours de la création est assez unique. Pour le troisième jour, mer et terre sont séparées. La mer est calme, au second plan, et fait ressortir le foisonnement des plantes sur la terre. Les arbres fruitiers forment un verger bien identifiable face à une incroyable diversité de plantes vigoureuses, fleurs, bulbes, champignons et fougères. La vie s'est implantée. Avant de réfléchir au discours scientifique sur cette terre qui se couvre de vie, je vous propose de découvrir le poème symphonique de Gustav Holst, Les planètes. C'est une œuvre pour grand orchestre composée entre 1914 et 1917. 7 mouvements correspondant chacun à une planète du système solaire. C'est une œuvre pour grand orchestre. Il commence à écrire ce poème à l'âge de 40 ans et elle a été présentée pour la première fois en 1918 à Londres. Cette composition offre une exploration des différentes planètes du système solaire, sauf la planète Terre, justement. On va pour cela écouter un extrait de Jupiter, le porteur de gaieté qui peut représenter la formation et l'expansion harmonieuse de l'univers. Écoutons Jupiter de Holst.
Thank you.
Holtz n'a pas composé sur la planète Terre, peut-être, parce que c'est la seule dans notre système solaire qui porte la vie. Nous tentons à chaque émission de mettre en dialogue le poème biblique de la création et un regard scientifique sur le monde. On le redit, il n'y a pas d'opposition, pas de controverse, juste une invitation à la réflexion. En questionnant une intelligence artificielle sur l'origine et le développement du végétal, voici ce qu'elle me propose. Depuis l'apparition de la vie sur Terre, il y a environ 3,8 milliards d'années, le règne végétal a joué un rôle fondamental dans la transformation de notre planète. Les premières formes de vie végétale, constituées d'algues microscopiques, ont émergé dans les océans et révolutionné l'environnement grâce à la photosynthèse, libérant de l'oxygène dans l'atmosphère. Cette étape cruciale a permis l'évolution d'organismes plus complexes. Progressivement, les plantes ont colonisé les terres il y a environ 470 millions d'années, affrontant de nombreux défis tels que la gravité et le manque d'eau. L'apparition des vaisseaux conducteurs de sève, des graines et des fleurs ont permis leur diversification et leur adaptation. Aujourd'hui, les plantes sont au cœur de la biodiversité et du fonctionnement des écosystèmes. Elles sont les témoins de millions d'années d'évolution. C'est plutôt bien. L'IA qui a rédigé ce texte n'invente rien, bien sûr. Elle va puiser dans des sources qu'elle n'indique pas, d'ailleurs. Mais la proposition est plutôt scientifiquement correcte. Il y a bien un rôle des plantes dans l'apparition de l'oxygène sur Terre, oxygène indispensable à la vie. Les plantes ont joué un rôle essentiel dans l'enrichissement de l'atmosphère terrestre. Oxygène qui est un élément vital. Les premières formes de vie végétale, en particulier les cyanobactéries, ont développé la photosynthèse il y a environ 3,5 milliards d'années. Ce processus leur permettait de convertir l'eau, le dioxyde de carbone et la lumière solaire en énergie, libérant de l'oxygène comme sous-produit. Avec le temps, cette production massive d'oxygène a entraîné ce que l'on appelle la grande oxydation il y a environ 2,4 milliards d'années, modifiant fondamentalement et durablement la composition de l'atmosphère terrestre. Cette augmentation d'oxygène a non seulement permis l'émergence d'organismes aérobies, mais a également conduit à la formation de la couche d'ozone, protégeant la Terre des rayonnements ultraviolets. Lorsque les plantes ont colonisé les terres, leur rôle dans ce cycle de l'oxygène s'est intensifié, contribuant encore davantage à soutenir la vie complexe. Elles continuent aujourd'hui de purifier l'air et de réguler notre atmosphère. L'histoire de l'oxygène sur Terre est vraiment fascinante. La vie a permis la vie. La proportion d'oxygène dans l'atmosphère terrestre est stable depuis plus de 800 millions d'années. Et les océans, les grandes forêts maintiennent cet équilibre. On le sait et on l'oublie si souvent. Les humains dépendent totalement de la vie qui les entoure, pour se nourrir bien sûr, et pour respirer. Tout simplement. Je vous propose d'écouter Hubert Reeve lors d'une conférence de 2008. Hubert Reeve, astrophysicien et vulgarisateur scientifique bien connu, qui a disparu en 2023. Son message : toute la richesse et la beauté de cette terre vivante sont désormais mises en péril par l'être humain, devenu la principale menace pour son environnement et sa biodiversité.
Je vais vous présenter une image qui va résumer en peu de mots ce que le thème dont je vais parler, et vous comprendrez progressivement pourquoi je l'ai choisi comme une image emblématique. C'est un homme qui tient dans sa main un oiseau malade qu'il veut soigner. Et ça résume, je pense, tout à fait un long passé de nos interactions, nous les êtres humains, avec la nature. La biodiversité, bon, c'est un mot un peu savant, moi j'aime mieux dire la nature, protection de la nature, et c'est la découverte fondamentale que l'humanité fait depuis peu de temps, que quand elle agresse la nature, comme elle le fait depuis plus de 100 000 ans, ça fait longtemps que notre interaction avec la nature est quelque chose d'ambivalent et de dangereux, quand elle agresse la nature, elle s'agresse elle-même. Elle se met elle-même en danger. On parle beaucoup, évidemment, du réchauffement planétaire. C'est vrai, c'est un phénomène important. On parle beaucoup de la couche d'ozone. On parle moins de l'importance de ce qui se passe dans notre rapport d'être humain avec la nature et jusqu'à quel point ce rapport maintenant nous revient, nous menace, jusqu'à quel point il est important. Et ça, c'est... Aujourd'hui, il y aura des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles et des bonnes nouvelles. Il faut être réaliste. Souvent, les gens me disent « Ah, dans le passé, vous nous parliez des étoiles, vous nous faisiez rêver avec les galaxies. » Oui, c'est très bien de rêver de l'univers et tout ça, mais il faut quelquefois revenir sur la Terre et sur la Terre se rendre compte de ce qui est, de ce qui se passe. Et notre soirée va être un peu une sorte de réflexion sur notre interaction à chacun de nous qui appartenons à une espèce qu'on appelait Homo sapiens, homme savant, je ne sais pas si c'est mérité, mais enfin c'est comme ça. Et cette interaction que nous avons, nous allons essayer de réfléchir et de nous demander qu'est-ce qui se passe. Pourquoi est-ce que c'est aujourd'hui, je veux dire ces années-ci, depuis quelques décennies, qu'on est tellement préoccupé pour l'environnement? Il y a 20 ans, j'aurais fait une conférence ici, il y aurait eu 50 personnes polies qui seraient venues m'écouter. Aujourd'hui, le seul fait que vous soyez venus en très grand nombre montre bien jusqu'à quel point nous avons conscience aujourd'hui, nous prenons conscience de l'importance de ce qui se passe et nous allons essayer d'y réfléchir et de voir pourquoi c'est maintenant que cela se passe. Vos grands-parents, je pense, n'ont probablement jamais entendu parler d'écologie ou d'environnement. Quand j'étais enfant, on ne parlait pas de cela. C'était pas un sujet, c'était pas une préoccupation. Ce n'est que dans les années, dans les décennies qui viennent de s'écouler, que de plus en plus, on prend conscience de l'importance de ce qui se passe.
Sa voix et son enthousiasme alertaient déjà il y a plus de 15 ans. Saurons-nous réparer et soigner ce monde que nous habitons?
Souvent, j'intitule cette conférence « Astronomie et écologie ». Quel rapport y a-t-il entre l'astronomie et l'écologie? Ben, je vous dirais en peu de mots que l'astronomie, la science, les connaissances scientifiques, la biologie, nous apprennent des choses sur comment il se fait que nous soyons ici présents en tant qu'êtres humains. Quel est notre passé? C'est un peu le message des connaissances scientifiques d'aujourd'hui. L'écologie nous dit comment y rester dans des conditions convenables. C'est-à-dire, elle nous montre combien notre présence, notre avenir, et pas notre avenir à très longue échelle. Dans le passé, je disais souvent, pour nos petits-enfants, je pense que c'est même plus rapproché que ça, ce qu'on découvre maintenant, c'est que les problèmes s'amplifient plus vite que tout ce qu'on avait prévu, que par exemple les prédictions du GIEC, qui est le groupe international d'études de l'environnement sur la fonte des glaces, les pires scénarios, tels qu'on faisait il y a 10 ou 15 ans, sont dépassés par la réalité. On est maintenant, on a vraiment cette conscience de ce qui va se jouer, ce qui va se produire dans les années qui viennent, va influencer tout notre avenir en tant qu'espèce humaine. Souvent, j'ai appelé aussi cette conférence « L'avenir de la vie sur la Terre ». Je ne sais pas, je ne suis pas un prophète, je ne peux pas prévoir, mais je peux voir les nuages qui s'accumulent. Et je dirais, ce dont je vais parler, c'est du fait que souvent, les découvertes qui sont faites dans le domaine de la science par des scientifiques qui n'ont pas d'idée a priori de ce qu'ils vont découvrir, ces découvertes influencent toute notre vision du monde. C'est bien ce qui se passe aujourd'hui et nous allons nous concentrer justement sur ce monologue de Woody Allen qui disait « D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Où allons-nous? » Et Woody Allen, avec son esprit habituel, ajoutait « Et la quatrième grande question, c'est qu'est-ce qu'on va manger ce soir? » Eh bien, quand Woody Allen énonce cette question, il est évident que c'est une boutade. Si, quand on parle de ce soir, on ne parle pas de ce soir aujourd'hui, nous avons tous nos frigos bien pleins, si on parle de ce soir dans quelques décennies, la question se pose et n'est plus une boutade.
On n'est qu'au troisième jour. Il n'y a pas de conclusion. On comprend que d'autres étapes vont suivre. Une progression s'engage. Pourquoi ne pas chanter avec saint François, avec ce cantique des créatures qu'il composa il y a 800 ans ? Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la terre, qui nous porte et nous nourrit, qui produit la diversité des fruits avec les fleurs colorées et les herbes. À bientôt, le quatrième jour approche. Thank you.